Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique en compagnie de Christian Ingrao, historien du nazisme et du Front de l'Est. Le nazisme est une idéologie complexe et on a souvent bien grand mal à imaginer comment un tel mouvement a pu pénétrer l'ensemble d'une société au point d'en arriver aux drames et aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Avec Christian Ingrao, nous tenterons d'y voir plus clair sur la diffusion des idées nazies dans la société allemande et leurs impacts durant la guerre. Nous nous pencherons sur le contexte guerrier, mais aussi social, et nous poserons la question de l'occupation allemande sur le front de l'Est. La fin de la guerre entraînera la chute du Reich et d'Hitler. Mais peut-on imaginer que le nazisme s'est envolé pour autant ? Comment les nazis ont vécu avec leur culpabilité après la guerre ? Comment la société s'est reconstruite autour d'eux ? Et quelles relations les autres pays ont pu composer avec ces nombreux partisans ? Des questions brûlantes, un sujet complexe et un entretien passionnant avec un historien touchant et percutant à la fois, c'est tout de suite dans Nota Bene. Bonne écoute.
Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true.
Mes chers camarades, bien le bonsoir. Ce soir, on va recevoir un historien, pour changer, voilà. Christian Ingrao, spécialiste du nazisme et du Front de l'Est. Bonsoir Christian, comment ça va ?
Bonsoir, ça va très bien.
Ça va très bien. Écoute, qu'est-ce que tu as prévu de boire ce soir ?
Écoute, je pense que je vais boire un petit peu de thé. J'ai hésité avec un petit whisky, mais je pense que je vais essayer de rester sage.
D'accord, bah écoute, va pour le thé, je pense que c'est pas mal. Alors, pour commencer, mon cher Christian, peut-être avant de parler donc des nazis après la guerre, puisque c'était ça la thématique du soir, je pense qu'il faut recontextualiser un petit peu tout ça. Est-ce que, de ton côté, tu peux nous rafraîchir un petit peu la mémoire sur comment cette idéologie s'est installée dans la société allemande ?
Alors, c'est déjà une très vaste question que tu poses, Ben.
Un quart d'heure, 20 minutes maximum.
On va essayer de faire ça très vite. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du mystère. Est-ce que on doit essayer de rechercher des causes profondes et faire comme, par exemple, les Américains au moment de la Seconde Guerre mondiale et qui pensaient que dès Luther, il y avait Hitler en germe, ou est-ce qu'on doit revenir à des causes qui seraient plus de l'ordre du social, de l'économique, voire du mental? Et dans ce cas-là, on doit faire partie de notre réflexion de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. L'Allemagne connaît à ce moment-là une industrialisation à marche forcée qui constitue une véritable épreuve pour sa société, avec des bouleversements qui font qu'on passe d'une société rurale à une société urbaine, une société agraire à une société industrielle, avec dans le même temps, si tu veux, une hausse démographique qui est extrêmement importante. Pour arriver à se repérer dans ce bouleversement, il y a un certain nombre de systèmes politiques et de systèmes de croyances qui se mettent en place, et tout cela aboutit, si tu veux, à une Allemagne qui met en place un nationalisme qui est relativement représentatif de tous les nationalismes occidentaux, européens, avec cependant l'idée qu'il est possible que l'on puisse ramener l'ensemble des populations de culture allemande et germanophone dans un empire qui serait un empire d'une seule traite et d'une seule entité politique. Tout cela finit par aboutir à l'explosion de la Première Guerre mondiale qui va constituer véritablement l'accélérateur de tout ce qui est en train de se passer, parce qu'il s'agit d'une expérience de mort de masse sans aucun précédent. Hein, je le rappelle, c'est 1800 morts par jour pendant 4 années et demie, hein, c'est un état d'exception tellement important qu'il y a une deuxième mortalité qui se met en place, non seulement cette mortalité de jeunes hommes qui fait que c'est un peu l'avenir qui meurt tous les jours dans la guerre, mais il y a aussi une deuxième mortalité qui montre bien la très grande subversivité de ce qui est en train de se passer, c'est une mortalité d'hommes plus âgés. Et en fait, la seule explication qu'ont trouvé les démographes, c'est que ce sont des hommes, des pères de famille qui meurent de chagrin d'avoir envoyé leur fils au champ de bataille. Pour rendre compte de tout cela, les sociétés européennes, parce que ça n'est pas tout cela est une épreuve qui est européenne. Pour rendre compte de tout cela, les sociétés européennes ont développé ce qu'on appelle des cultures de guerre, qui expliquent le conflit, qui en décryptent les enjeux et qui les radicalisent. Hein, en cas de victoire, cette guerre, c'est la guerre des terres, c'est la guerre des terres, c'est la guerre qui mettra fin à toute la guerre. Mais en cas de défaite, bien sûr, alors l'ennemi, hein, cette espèce d'entité ultra maligne, risque de remettre en cause non seulement l'existence en tant qu'entité politique, la nation, mais aussi en tant qu'entité sociale, voire démographique. D'ailleurs, il y a donc une sorte d'angoisse de mort collective qui envahit les Allemands, et ce d'autant, si tu veux, que cette guerre, elle est marquée aussi par un blocus continentale qui fait s'effondrer l'agriculture allemande et qui fait qu'à partir de 1916-1917, on a des épisodes de disette qui se mettent en place. Et donc, imagine un petit peu, t'es père de famille, t'as un enfant de 6-7 ans, maintenant, quand ton petit, il a la rougeole ou la rubéole, eh ben, ça se passe plutôt pas mal. Ils l'ont d'ailleurs pas parce qu'il y a un vaccin. Mais disons, dans les années 60, quand il y avait ça, eh ben, on passait la rougeole à la rubéole, c'était 4 jours, c'était infernal, l'enfant avait de la fièvre, il maigrissait, on était très inquiets, etc., etc. Mais à la fin, il s'en sortait. En 1916, un enfant qui fait la rougeole ou la rubéole, eh ben, il y a une chance sur 3 qu'il n'en sorte pas. Et donc, il y a, pendant cette guerre, une mortalité, une surmortalité de, entre 250 et 650 000 personnes qui sont essentiellement des femmes, des enfants et des vieillards. Et donc, quand tu dis à un Allemand de 1914-1918 qu'il est en train de vivre une guerre totale, il te répond évidemment, bien sûr que c'est une guerre totale, ces gens veulent notre mort et ils font la guerre à nos femmes et à nos enfants. En 1918, au moment où se met en place la fin de la guerre, eh bien là où les Français, ils ont connu la victoire et donc ils rentrent à la maison en passant par la case caserne. Eh bien les Allemands, ça n'est pas le cas. Les Allemands, non seulement les armées rentrent dans le plus total désordre en laissant simplement leurs armes lourdes sur le champ de bataille et en ramenant avec eux entre 3,5 et 6 millions d'armes individuelles, fusils, pistolets mitrailleurs, pistolets, haches, etc., etc. Donc ces armées rentrent avec des armes et donc diffusent les armes dans le corps social et dans le même temps, si tu veux, se met en place une sorte de méta-guerre civile qui dure de 1918 à 1924. Et donc, au moment où, après avoir entendu pendant 4 ans que de cette guerre allait se jouer le destin de la Germanité et qu'en cas de défaite viendrait une ère de ténèbres dans laquelle la sécurité physique et démographique de l'Allemagne serait remise en jeu, et ben c'est ce qui s'est passé. Le nazisme, c'est un système de désangoissement qui explique aux gens pourquoi est-ce qu'ils ont perdu la Première Guerre mondiale. Le nazisme est un déterminisme racial, c'est-à-dire que quand tu crois au nazisme, eh bien, tout devient racial. L'apparence des gens en face de toi devient raciale. Hein. Les races, elles désignent ce qu'on appelle des phénotypes, c'est-à-dire des apparences extérieures. Hein. Les nordiques sont grands, blonds, dolichocéphales, le nez fin et aquilin, etc., etc. Dès que la peau n'est plus blanche et pâle, eh bien, on descend dans l'échelle raciale. L'histoire devient le grand récit du combat racial, hein, qui a commencé sous l'homme de Cro-Magnon, alors ignatien, et qui, bien sûr, s'est poursuivi jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et, bien sûr, soi-même, on est un maillon dans une chaîne raciale qui commence à ses ancêtres et qui englobe ceux qui vont devenir. Et cette explication, ce déterminisme racial, eh ben, il donne du sens à tout ça. La guerre, elle a été perdue. Pourquoi pour les Allemands? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait un ennemi, que cet ennemi, il avait une unité cachée. Cette unité cachée, elle était raciale et ce que les Allemands, combattaient à ce moment-là n'était pas seulement l'entente, n'était pas seulement des Britanniques, des Français et des Russes qui étaient alliés. Il y avait derrière ces nations apparemment liguées contre l'Allemagne, hein, ce monde d'ennemis, il y avait un seul et même ennemi qui était un ennemi racial, c'est l'ennemi juif qui est représenté par deux espèces. D'un côté, l'ennemi plutocrate, l'ennemi riche, l'ennemi capitaliste, hein, qui est celui qu'on trouve à Wall Street, hein, et à la City londonienne. Et puis de l'autre, le second ennemi, l'ennemi judéo-bolchevique. Hein. Mais derrière eux, il y a une unité raciale. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que le déterminisme racial fait, en fait, de tout cela, un immense complot qui vise à éliminer l'Allemagne. Mais si on prend le nazisme que comme ça, on comprend pas tout. Et on peut pas comprendre notamment pourquoi est-ce que c'est une idéologie aussi attractive. En effet, le nazisme, c'est pas simplement un déterminisme racial, c'est aussi un projet de refondation socio-biologique. Il y a quelque chose d'utopique derrière tout ça. Ce que Schiller explique, quand ils expliquent que le monde veut la paix de l'Allemagne, ils disent aussi, oui, mais nous, on va inverser cette malédiction germanique, on va créer une nouvelle société. Et ça, c'est fondé sur 3 concepts. Le premier concept, c'est le concept de Lebensraum, espace vital, on a traduit ça, mais on pourrait traduire ça par biotope. Hein, c'est un concept qui vient des sciences de la vie et de la Terre. Et donc, l'idée, c'est que chaque espèce a besoin d'un espace défini pour se développer. Et l'espèce allemande, la race allemande, l'ethnie allemande, n'a pas assez d'espace, et donc il faut qu'elle élargisse son Lebensraum. D'un autre côté, le nazisme se propose de mettre en place un projet de refondation socio-biologique de l'Allemagne. Une nouvelle société qui sera basée sur l'appartenance raciale et la qualité raciale des gens. C'est-à-dire que ce n'est pas ta naissance qui détermine ton destin, c'est ton patrimoine racial. Et les nazis disent même, si vous voulez, qu'ils sont une société qui sera inégale mais juste. Et troisième et dernier concept, c'est le Thousand Years Reich, le grand Reich millénaire. C'est le jour où les nazis auront réussi à conquérir un espace et à mettre en place une nouvelle société. Alors, ça aura été une telle révolution qu'il faudra 1000 années pour qu'elle se mette réellement en place. Et voilà, c'est cette capacité du nazisme à transformer l'angoisse de la mort de masse en l'attente d'une espèce d'utopie politique qui constitue la très grande attractivité que le nazisme a pu exercer sur à peu près toutes les classes de la société, un peu moins les ouvriers que les autres, mais les paysans et puis évidemment les classes moyennes et les élites. Et donc, ce que l'on observe, c'est qu'entre 1918 et 1933, le nazisme essaye d'abord de prendre le pouvoir par le putsch, hein, et puis ça de 1924, et puis ça se termine très mal parce que ces gens savent pas faire, tout simplement. Il y a un amateurisme dans ce putsch qui est assez, qui est au fond assez drôle. Enfin, ils menacent des gens avec un flingue, et puis ils les laissent partir juste derrière. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ben, ils appellent la police, et puis tout se passe mal. Mais à partir de 1925-1926, au moment où le nazisme, le NSDAP commence à avoir pignon sur rue, ils décident qu'ils vont tuer la démocratie avec ses propres armes. Et après la crise de 1929, eh ben, ça marche. C'est-à-dire que les nazis disent, bah, écoutez, vous pensez qu'on a tout essayé contre la crise? Non, on n'a pas tout essayé, essayez-nous, nous. Et à partir de là, les victoires électorales sont foudroyantes. Hein. Entre 1928, en 1928, le parti doit être à 2,32% des voix. En 1932, ils en sont à 38-39% de multiplication par 18 en 4 ans. Et donc, c'est juste monstrueux. Et donc, à partir de ce moment-là, la droite classique se dit « Bon, ces gens sont des blaireaux, ils ont bien montré ce qu'ils étaient, ils ont la SA qui met le désordre dans la rue, mais ils sont incapables de gouverner. On va les prendre avec nous, on va les manipuler, on va les cornériser, exactement. Et comme ça, on va pouvoir continuer à gouverner comme si rien n'était. » Et ils font ça le 30 janvier 1933. Ils nomment Hitler comme chancelier, mais à partir de ce moment-là, c'est l'escalade révolutionnaire. Et en 1 an et demi, les nazis prennent l'ensemble des pouvoirs.
Et ensuite, il va y avoir une sorte d'escalade, de montée en tension progressive jusqu'à 1939, où on va remilitariser le pays et le préparer finalement à cette expansion pour pouvoir s'épanouir en tant qu'ethnie.
Ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de première phase de 1933 à juin 1934 qui est une phase totalement révolutionnaire où il y a un événement par jour et chacun des événements va toujours dans le même sens, c'est-à-dire la société a de moins en moins de moyens d'expression, les forces de la société civile sont neutralisées les unes après les autres. Et puis, à partir de juin 1934, tu as une sorte de plateau de tranquillité qui se met en place avec, bien sûr, des mesures qui se mettent en place qui consistent à exclure les juifs, les sociodémocrates, puis à faire la même chose avec la délinquance, etc. etc. Mais au fond, après juin 1934, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte d'apparence de normalité qui se met en place et qui n'est troublé en fait que d'une part par les quelques campagnes de boycott des magasins juifs qui se mettent en place en 1934-1935 et surtout par des pogroms qui éclatent en novembre 1938 contre les juifs. Pour le reste, il y a une sorte de normalité qui s'est installée, qui est basée sur le pseudo-miracle économique nazi, qui fait que, après 1934, le chômage se résorbe extrêmement rapidement, que assez rapidement, la vie politique se met à ronronner avec cette espèce d'univocité nazie, et puis le fait que le calme revient dans les rues après les espèces d'années de pseudo-guerre civile qu'avait connue l'Allemagne de 1932 à 1934. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que le calme règne, les trains arrivent à l'heure et que la société se met en place sur un semblant de normalité. Au plan extérieur maintenant, à partir de 1935, les nazis mettent en place de façon à la fois opportuniste et méthodique tout un ensemble de choses pour éliminer les unes après les autres les conséquences du traité de Versailles et du règlement de la paix de 1914-1918 et ils mettent en place en même temps un modèle d'économie qui est fondée sur des choix qui ont pour corollaire, un, de vouloir l'autarcie, c'est-à-dire l'autonomie économique et l'isolationnisme allemand, et de l'autre, une priorité donnée de façon fondamentale au réarmement, ce qui se passe de façon relativement importante à partir de 1937-1938.
Alors, on va pas refaire toute la Seconde Guerre mondiale, ça nous prendrait beaucoup de temps, et c'est pas le sujet du jour. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, et d'ailleurs, quel est le point de vue des Allemands sur l'occupation des terres étrangères, on va dire, pendant la Seconde Guerre mondiale ? Et est-ce que cette occupation, elle a été la même en Europe de l'Ouest et sur le front de l'Est? Puisque là, c'est ta spécialité, le front de l'Est. On s'imagine que ça peut être légèrement différent.
Oui, c'est extrêmement différent. Il y a d'abord, tout ça commence, enfin, tout ça est une sorte de crescendo, hein. Tout ça commence par, en 1938, l'Anschluss, c'est-à-dire là, appelons ça une sorte de réunification, hein, qui s'opère entre l'Allemagne des frontières de 1937, hein, l'Allemagne du traité de Versailles, et l'Autriche germanophone qui a résulté des traités de la banlieue parisienne. Ici, les nazis disent, bah, écoutez, vous ne nous avez pas laissé faire le truc en 1918, et pourtant, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes faisait que les Autrichiens nous avaient demandé à être réunis avec nous, et vous n'avez pas laissé faire. On est simplement en train de rendre les choses à peu près normales. Puis viennent un certain nombre d'annexions, d'abord les Sudètes, qui sont aussi des régions qui sont à majorité relative germanophone, puis le reste de la Tchécoslovaquie. Alors là, ça reste compliqué, ça devient compliqué, parce que ça ne sont plus des... Le prétexte nazi qui est de réunifier des régions de langue allemande ne joue plus. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui change et qui fait qu'on a affaire à une vraie occupation. La deuxième vraie occupation, c'est évidemment la Pologne. Et là, la Pologne, c'est quelque chose de très compliqué, parce qu'il y a à la fois des régions qui sont à majorité germanophone et donc les nazis disent on va les annexer. Et puis il y a plein d'autres régions qui vont être rassemblées dans un truc qu'on appelle le gouvernement général. Et là, les nazis disent bon bah écoutez, ça sera notre Far East, comme il existe un Far West pour les Américains. Ce sera notre Far East. C'est une terre qui sera à la fois une terre de colonisation et dans laquelle les gens se conduisent comme dans le Far West, c'est-à-dire pensent que leur appartenance nationale et raciale, leur germanité, si tu veux, leur donne tous les droits. Et donc, comment ça se met en place ici? Un modèle qui est un modèle frontalier colonial, on va appeler ça comme ça, tu vois, mais avec une colonisation qui est, c'est pas la même colonisation qu'en Inde ou en Afrique pour les autres occidentaux, c'est une colonisation comme il y avait des colons aux États-Unis. Et comme il a pu y avoir des colons allemands au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, dans l'Empire russe. Et donc, il y a une société coloniale qui se met en place avec une vraie supériorité représentée des pseudo-colons allemands contre les populations autochtones. Ce phénomène-là, tu ne le retrouves jamais à l'Ouest. Il y a effectivement des tentatives et réussies, hein, d'annexion de territoires à l'Ouest, l'Alsace, la Moselle, avec des expulsions de populations définies comme halogènes, mais malgré tout, c'est sans commune mesure. Les niveaux de violence qui sont mobilisés par les nazis à l'Est sont sans commune mesure avec ce que va pouvoir connaître la Belgique, la France ou les Pays-Bas.
Et du coup, sur le territoire allemand, quelle est la réaction des civils vis-à-vis de tout ça?
D'abord, c'est très compliqué de le savoir. Ça, c'est une première chose. Parce que c'est le régime nazi est un des régimes les plus coercitifs qui soit, et donc t'as vraiment pas intérêt à dire ouais, écoute, je trouve pas ça très Charlie d'envahir la Pologne. Et tu finis assez rapidement, non pas dans un camp de concentration, mais d'abord dans un commissariat où tu prends des gifles et ça t'apprend la vie. Donc c'est très difficile de savoir comment s'agence l'opinion nazie. Ça a été un champ de recherche pendant très longtemps pour les historiens du nazisme, hein, et notamment quelqu'un comme Yann Kershaw a beaucoup travaillé là-dessus, hein. Et on peut le faire avec deux sources. Il y a d'une part des rapports d'opinion qui sont mis en place par les services de renseignement intérieur de l'ASS, qui s'appelle le SD. Et en second lieu, le Parti social-démocrate allemand, tu sais, donc les socialistes, ont laissé, quand les nazis ont pris au pouvoir, des réseaux clandestins qui essayent de rendre le même type de rapport. Et c'est avec ces rapports-là qu'on peut essayer de comprendre ce qui se passe. Et on s'aperçoit que jusqu'en 1940, on a une population allemande qui est quand même, malgré tout, extrêmement attentiste, qui n'a pas très envie de faire la guerre. Et qui grogne à chaque fois qu'une guerre est enclenchée ou une phase de conquête est enclenchée, et qui montre des signes d'appréciation quand cette guerre est gagnée, mais sans que ça atteigne quelque chose qui est de l'ordre de l'euphorie. L'euphorie arrive à l'été 1940. L'euphorie arrive avec la campagne et la victoire sur la France. Quand les Allemands entrent dans Paris, eh bien, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la surprise et de l'euphorie qui se met en place dans la population allemande, tout simplement parce que, ben voilà, les nazis donnent l'impression à ce moment-là d'avoir gagné la guerre du 14-18. Et à ce moment-là, ils se disent, ben voilà, nous avons effacé la guerre et les choses commenceront. Et puis, bien ensuite, en juin 1941, l'invasion de l'URSS, qui est relativement mal vu, mais qui devient très très vite une guerre dans laquelle les mécanismes de mobilisation idéologique jouent à plein et transcendent l'appartenance partisane. C'est-à-dire que en 1943 ou en 1944, que tu sois un ex-allemand de gauche ou un national-socialiste convaincu, tu penses que la guerre qui est en train de se mener là-bas est une guerre totale et que dans cette guerre se joue le destin de l'Allemagne. Ce qui n'est pas tout à fait faux.
On va évoquer tout de suite la Shoah et aussi à l'Est la Shoah par balle. À partir de quel moment on commence à basculer dans des tels degrés de violence? Parce qu'on ne peut pas aborder la culpabilité nazie d'après-guerre aussi sans parler de tout ça, en fait.
Mais oui, c'est là que les choses elles sont quand même extraordinairement compliquées. La violence commence à apparaître évidemment avec la guerre. C'est-à-dire le 1er septembre 1939, il y a quelque chose qui bascule. Du 1er septembre au 6 octobre, au 15 octobre 1939, tu as un premier épisode guerrier, une première bataille dans laquelle se joue un certain nombre de décès. Donc la société allemande est touchée de plein fouet par la guerre, mais la plus grande partie de la plus grande partie de la violence, elle l'exporte. Hein. C'est-à-dire que c'est en Pologne que vont être tués plusieurs centaines de milliers de Polonais, qu'il y a entre 12 et 15 000 civils polonais qui sont tués par ces groupes de sécurité qu'on appelle les Einsatzgruppen. C'est ailleurs, hein, hors du territoire allemand, que tout ça se met en place. Bien sûr, cette première campagne, qui est une campagne qui est déjà violente, est sans commune mesure avec ce qui se passe à partir du 22 juin 1941, où là, véritablement, il y a une tique de la violence qui fait que là où les Einsatzgruppen ont tué quelque chose comme 15 000 personnes en 6 semaines, les Einsatzgruppen du RSS vont tuer 450 000 personnes en 6 mois. Donc on est sur des décuplements qui montrent que c'est sans commune mesure. Alors, mais la question est de savoir qui est touché par cela. Toute la violence nazie est une violence qui est dirigée vers l'extérieur. Jusqu'en 1944, elle est essentiellement dirigée vers l'extérieur, c'est-à-dire vers les populations qui sont racialement identifiées comme racialement non souhaitables. Hein. Les Juifs, les sociétés rurales russes et polonaises, etc., etc. Et donc, on s'aperçoit qu'on a un crescendo de violence qui se met en place et qui connaît des sauts de cliquet de façon extrêmement importante. Le 22 juin 1941 est une date qui est ici extrêmement importante parce que d'une part, les nazis mettent d'abord en place une agression tous azimuts contre les civils de la frange occidentale de l'Union soviétique, juifs en premier lieu, mais pas seulement. À partir de septembre 1941, on s'aperçoit que on a plusieurs mouvements. D'un côté, une vague exterminatrice, exhaustive, qui est censée toucher les communautés juives de l'Union soviétique. À partir de ce moment-là, il y a d'énormes, énormes, gigantesques massacres, comme celui de Babi Yar, 33 771 personnes qui sont tuées en deux jours, hein, les 29 et 30 septembre 1941. Et dans le même temps, tu as un premier massacre planifié, qui est celui des prisonniers de guerre soviétiques. Je rappelle que entre l'été 1941 et, on va dire, février-mars 1942, ce sont 2 500 000 prisonniers de guerre soviétiques qui sont condamnés à mourir de faim dans les enclos allemands. Et donc, je pense que la bonne métaphore pour essayer de le montrer, c'est la masse critique atomique. Hein. Ça fonctionne comme une bombe atomique, et on a une espèce de crescendo de violence qui est comme ça, qui devient absolument incontrôlé, et qui fait que les nazis tuent de plus en plus à partir de ce deuxième semestre 1941.
Et comment tu expliques que ces hommes-là, les soldats allemands, acceptent cette violence et puissent céder de plus en plus à cette violence?
Alors, la première chose qu'il faut bien comprendre, je pense, c'est que il n'y a pas encore de consensus sur ces questions-là. C'est-à-dire que les historiens ne sont pas toujours d'accord sur toutes ces questions. D'une part, parce que les sources qui nous permettent de le travailler sont des sources qui sont très différentes. On a d'un côté des sources étatiques, hein, avec même si on travaille à 90 à 95% de pertes quand on est sur des sources nazies, hein, il faut pas se mettre de peau de saucisson sur les yeux. On a d'un côté ces sources-là qui nous donnent une vision assez rationnelle de tout ça, qui nous montre par exemple les politiques de lutte contre les partisans comme des politiques de prédation des biens et des hommes dans Biélorussie. Et donc, tu t'aperçois qu'à ce moment-là, à partir de janvier 1942, d'un côté, ils font les nazis annihilent des dizaines et des centaines de villages pour priver les partisans des pseudo-partisans, parce qu'il n'y en a pas beaucoup à cette époque-là, mais pour priver les partisans de bases de ravitaillement. Et dans le même temps, rationnellement, ils prennent ce qu'ils peuvent prendre pour pouvoir nourrir leur propre effort de guerre. Il n'en reste pas moins que ça, c'est une vision que nous donne les archives allemandes. Mais quand on regarde les archives judiciaires, et qui cette fois-ci sont celles qui sont faites avec des soldats qui ont été rattrapés ou des témoins et des victimes russes, Eh ben, à chaque fois, ce qu'on voit, c'est des villages dans lesquels on met les habitants dans des granges et on les brûle. Et donc, tu vois bien, c'est compliqué de voir tout ça, parce que quand on regarde les discours des gens, on a l'impression que on a affaire au fond à un peuple qui a mis en place une guerre impérialiste, mais qui au fond, à partir d'un certain moment, ne fait que se défendre. Et puis à partir d'un autre moment, et ben on s'aperçoit qu'il y a des centaines de milliers de gens qui ont participé à ces massacres, et que si on peut pas parler de Täterfolk, c'est-à-dire de peuple de criminels, il n'en reste pas moins que l'implication des forces allemandes, c'est-à-dire de centaines de milliers d'hommes entre 20 et 50 ans, est extrêmement importante. À partir du moment où on a posé des questions dans cet ordre-là, eh ben, il faut qu'on cherche les facteurs qui font qu'on mobilise les gens et qui font que, tu vois, Christopher Browning, il l'a bien montré, tu vois, les hommes de 61e bataillon qu'il a étudié sont, c'est des gens de monde, tu vois, d'à peu près de mon âge, 40, 50 ans. Donc, qui ont été syndicalistes, qui sont des dockers, donc qui ont une socialisation plutôt à gauche, sociodémocrate ou communiste, et qui se retrouvent à éliminer d'une balle dans la tête des juifs. Comment est-ce qu'on explique que tout ça ne soit pas uniquement de l'ordre du politique, mais de l'ordre de l'existentiel? Eh bien, c'est ce que on essaye de faire avec en mettant en place une histoire sociale et culturelle de ces bourreaux, et en essayant de montrer que, ben voilà, les questions de racisme et d'antisémitisme, elles transcendent l'appartenance politique, et elles ne sont pas liées simplement à des questions d'endoctrinement. Les gens sont actifs dans les processus, s'approprient l'air du temps, les idées, les angoisses, les émotions, et même si ils sont aussi soumis à des systèmes de contraintes qui sont parmi les plus importants au monde, eh bien, ils consentent dans une certaine mesure à tout cela.
Quand tu nous parles de cette violence, comment est-ce que ces soldats qui sont retournés à la vie civile après la guerre ont pu l'assumer? Comment est-ce qu'ils ont pu vivre avec? Comment est-ce qu'ils ont pu l'expliquer éventuellement à leurs enfants? Est-ce qu'ils l'assumaient toujours? Est-ce qu'ils se sont rendus compte collectivement de ce qu'ils avaient fait? Comment individuellement on peut se reconstruire aussi après ça? C'est beaucoup de questions.
C'est beaucoup de questions, et c'est des questions qui sont, c'est des questions qui ont une résonance tellement forte, tu vois, à l'heure actuelle, parce que les questions que tu viens de poser, on peut les poser à l'Amérique des années 2000, tu vois, comment est-ce qu'on peut comprendre la crise que traversent les États-Unis avec Trump, etc., etc., sans prendre en compte le fait qu'on a plusieurs centaines de milliers de vétérans qui ont été faire la guerre en Afghanistan, en Irak, etc., etc., qui ont trempé à d'autres niveaux, évidemment, dans l'agression contre les civils, mais qui sont rentrés et qui ne savent pas quoi faire de cette violence. Eh bien, justement, on n'est pas dans la même situation en Allemagne après 1945, et c'est peut-être une des choses qu'il faut essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'au fond, comme je te le disais, il y a une espèce de tornade de violence qui saisit l'Allemagne entre 1941 et juin 1945, juste après la capitulation, et puis après, c'est terminé. Après, c'est terminé, bien sûr. Quand encore une fois, on reprend ces archives judiciaires qui nous servent à appréhender d'une part l'expérience de guerre individuelle des soldats allemands et de l'autre les stratégies de défense et de culpabilité qu'ils ont mis en place après la guerre, on s'aperçoit que tout ça laisse de la trace. Que ces traces, elles apparaissent parfois au grand jour, mais très souvent de façon souterraine. Parfois, tu te retrouves avec la femme d'un de ces hommes qui vient témoigner devant le magistrat en disant « Ah, écoutez, je suis bien content que vous le fassiez parler parce que il était insupportable depuis son retour, il fait des cauchemars, il boit, il nous tape dessus et voilà, c'est très bien qu'on puisse parler de tout ça. » On a ces témoignages-là. Évidemment, le témoignage que je suis en train de te citer, c'est un parmi des milliers. Et les milliers, la plupart du temps, les milliers, c'est non, j'y étais pas, non, je me rappelle pas, oui, j'ai assisté à ça, etc., etc. Les gens ne disent pas leur culpabilité. Mais on s'aperçoit bien que elle est relativement peu dite et que ce non-dit se migre, navigue dans la société allemande. Et par exemple, on est tous persuadés, tous les historiens désormais de l'Allemagne sont persuadés que tu ne comprends pas la crise du mouvement étudiant des années 60 et le terrorisme de la fraction armée rouge si tu ne reviens pas à ce passé qu'on ne faisait pas passer, à cette amnestie froide qui a été celle des amnesties et d'amnésie froide qui a été celle de l'Allemagne d'Adenauer des années 50. Hein. Au fond, ce que demande la fraction armée rouge, c'est quelle est cette société dans laquelle nous vivons, quelle est cette société qui nous semble être une société de faux semblants, un Affentheater, on dit en allemand. Affentheater, c'est un théâtre de singes, c'est un théâtre d'ombre dans lequel les nazis n'ont pas disparu et sur laquelle on ne peut pas construire une vraie démocratie. Et ça, c'est effectivement un des avatars de la gestion de la culpabilité par les Allemands.
Juste de cacher la poussière sous le tapis ?
Il y a eu cette tentative-là, oui, c'est clair. Il y a deux choses à voir. La première chose, c'est que c'est pas eux qui ont essayé de cacher la poussière sous le tapis. C'est l'ensemble des Occidentaux. Entre 1945 et 1949, tout le monde est là en train de dire « bon, on va dénazifier ». Et puis, ils s'aperçoivent de quoi ? Ils s'aperçoivent que il y a 80 millions de personnes qu'il va falloir, un peu moins, 75 millions de personnes qu'il va falloir faire vivre, qu'il y a des hôpitaux à faire tourner, des commissariats de police à reconstruire, des villes à gérer, des stations d'épuration à gérer, etc., etc. Pour faire ça, on est dans une société occidentale, il faut quoi ? Il faut des hommes âgés entre 20 et 40 ans qui ont fait des études supérieures, qui sont capables de faire tourner un bureau ou un commissariat, etc. Qui sont ces gens ? Des nazis. C'est tout simple. Et donc, les bon an, mal an, même s'il y a des différences entre les quatre alliés, les gens choisissent, les quatre alliés choisissent de s'appuyer sur ce groupe de personnes pour reconstruire la société. Je rappelle qu'il y a un endroit où, en 2003, les Américains ont décidé de faire un choix radicalement différent, c'est l'Irak. Ils disent, les gens qui ont fait partie du parti Baath, du parti de Saddam Hussein, on ne veut plus les voir. 5 ans plus tard, Al-Qaïda et Daesh sont en route. En Allemagne, ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'il y a eu une sorte de choix qui a été opéré par tout le monde et de façon silencieuse de réassocier les élites fonctionnelles du Troisième Reich à la reconstruction de l'Allemagne. Seulement, tout ça se paye 20 ans plus tard. Parce que tu as les enfants de ces gens-là qui disent « Dis papa, où est-ce que tu étais entre 1941 et 1945 ?» Et le père lui dit « Finis tes rues tabaga et on en reparle. » Et voilà, c'est là que ça se met sous le tapis. Et donc, c'est parce que la reconstruction s'est mise en place de cette façon-là que, en effet, la question de la culpabilité est peut-être moins bien gérée. Mais tout ça est compliqué parce que, d'un autre côté, à partir de 1960, la deuxième génération des Allemands, la génération de ceux qui soit étaient de très jeunes enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, soit qui sont nés après, arrivent aux manettes. Les gens font leurs études, deviennent juristes, et puis tu as toute une génération de jeunes procureurs et de jeunes avocats qui disent bon bah écoutez, maintenant on aimerait bien savoir, et se met en place à ce moment-là une série d'enquêtes ultra systématiques sur le passé nazi et la façon dont les nazis ont mis en place des crimes dans toute l'Europe.
Et donc, il y a une espèce de judiciarisation, on va dire, de la culpabilité aussi. On cherche des coupables pour passer à autre chose, ou comment ça se passe ?
Ce qu'on peut dire malgré tout, on peut critiquer, et l'extrême gauche allemande s'en est pas privé, on peut parfaitement critiquer cette espèce de république fédérale allemande, capitaliste, rhénane et amnésique. Il n'en reste pas moins que la même république met en place un effort considérable d'enquête et donc d'introspection sur son propre passé. Évidemment, tout ça est compliqué parce que au moins au début, quand un suspect des Einsatzgruppen est convoqué au commissariat, la plupart du temps, dans le commissariat, comme chef de la police criminelle, il a un ancien collègue. Et donc, souvent, il a été prévenu avant et il a préparé les questions, au moins pour le premier interrogatoire. Bien sûr que tout ça est un peu compliqué. Il n'en reste pas moins que il y a à Ludwigsburg, hein, dans une des annexes des archives fédérales allemandes, il y a des dizaines de millions de pages d'interrogatoires d'anciens nazis pour essayer de mettre en place des enquêtes systématiques sur les crimes qui ont été commis pendant les années de 1939, 1933, 1945.
Des enquêtes qui ont pour finalité d'établir une culpabilité et de pouvoir condamner, ou...
Des enquêtes qui ont pour finalité de pouvoir établir des culpabilités et de condamner, mais avec quand même, malgré tout, un twist qui rend les choses pratiquement impossibles. Les Allemands, la République fédérale allemande, essayent de mettre en place un raisonnement juridique qui condamne les choses à l'impossible. Ils disent la règle fondamentale de l'institution judiciaire et la non-rétroactivité des peines. Ce qui veut dire que pour enquêter et incriminer et condamner les crimes qui ont été commis par les nationaux socialistes, il faut se servir du code pénal de 1937. Donc, pas de crime de guerre, pas de crime contre l'humanité, juste deux incriminations possibles, le meurtre et la complicité de meurtre. Donc, ça, c'est une première chose. Et ensuite, pour avoir un meurtre dans le droit de 37, il faut un lieu, une date, une identité de victime et un témoin. Et donc là, tu te retrouves avec l'exemple de Erich Schrödinger, tu vois, chef de la Gestapo et du SD à Kiev. Le mec, il a 100 000 personnes au compteur. 100 000! Et tu peux prouver aucune culpabilité. Aucune. Cet homme est un des intellectuels SS sur lesquels j'ai travaillé. Et on a des témoignages qui le montrent, revolver à la main, en train de tuer des gens. Mais la plupart du temps, le témoignage ne dit pas la date ou ne dit pas le lieu. Et puis, de toute façon, n'a pas l'identité de la victime. Et donc, le crime ne peut pas être prouvé et pas être constitué. Et donc, tu vois, c'est cette espèce de volonté d'irréprochabilité juridique et judiciaire qui explique que toute une partie des choses soient restées complètement, non pas impunies, pas tout à fait. Il faut sortir du raisonnement dans lequel la seule punition est la punition judiciaire. Une société qui a infligé à toute une partie de ses élites le fait d'être emmerdé tout le long de sa vie, d'être convoqué au commissariat, de devoir répondre à des questions, d'avoir peur que de devoir passer dans les tribunaux, qui a gâché la vie. Alors, gâcher la vie, c'est pas grand-chose par rapport à ce que ces gens avaient fait, on est bien d'accord. Et il y a encore à l'heure actuelle plusieurs dizaines, pas beaucoup, hein, mais plusieurs dizaines de procédures qui sont en cours avec des avocats qui continuent à travailler dans les locaux. Tu vois, moi, je me rappelle, j'allais travailler dans ces archives à Ludwigsburg dans les années 2000, et on était au deuxième étage, et au troisième étage, il y avait encore des procureurs qui étaient en train de chasser des nazis. Et j'ai des amis historiens qui ont financé leur thèse en étant chasseurs de nazis. Donc, tu vois, ces gens ont vraiment essayé longtemps et beaucoup.
Et c'est ce qui explique, selon toi, qu'aujourd'hui, les Allemands aient une telle volonté aussi, peut-être d'expier ou de montrer patte blanche en ouvrant au maximum. Tu vois, dernièrement, on a vu sur les réseaux encore cette fameuse photo de la porte de Brandebourg affichée avec la date de la fin de la guerre, avec marqué « Merci » dans toutes les langues, tu vois.
Je suis pas un spécialiste de l'Allemagne d'après-guerre, tu vois. Mais il y a quelque chose, tu vois, il y a un slogan, il y a une phrase en Allemagne qui dit « Besiegt und befreit ». C'est-à-dire que vaincu mais libéré. Et il y a une conscience très très aiguë dans les deux Allemagnes de ça. Mais tout ça est toujours un peu dialectique. Tu vois, tu as d'un côté un immense effort qui a été produit pour d'introspection, de travail sur la culpabilité, de travail sur les mœurs, etc., qui fait que pendant la crise des réfugiés qu'on vient de connaître avec les horreurs qui se sont passées en Syrie et où des centaines et des centaines de milliers de gens sont venus frapper à la porte de l'Europe comme l'avaient fait les réfugiés juifs en 1938, et l'Europe s'est encore lavé les mains comme d'habitude sur ces conneries-là, et ben, les Allemands sont les seuls à avoir dit « Wir schaffen es, on va y arriver ». Et tu vois, et ça, c'est le résultat, me semble-t-il, de cette espèce de cette espèce d'introspection. Mais d'un autre côté, tu as aussi toute une partie de la population allemande, pas très numériquement pas très nombreuse, mais qui te dit ça suffit maintenant ces conneries, la culture du repentir, de la repentance et de la culpabilité, il y en a ras-le-bol, Ausländer raus, les étrangers dehors, et l'Allemagne aux Allemands. Tu vois. Et donc, la virulence de ce qu'on appelle Alternative für Deutschland, l'AfD, tu vois, c'est-à-dire la recrudescence de l'extrême droite, elle est aussi liée à ce travail d'introspection. Il y a des gens qui disent que maintenant ces temps-là sont révolus et qu'il faut passer à autre chose et passer à un autre agenda, un agenda évidemment de droite extrême et agressif.
Oui, d'ailleurs, on a le même type de discours qui se développe à Bâle en France, pas forcément pour les mêmes périodes, mais qui c'est. Et du coup, sur tout ce qui est condamnation, finalement, il faut plus se tourner vers des enquêtes ou des tribunaux extérieurs à l'Allemagne, comme il y a pu avoir avec Nuremberg. Ou
écoute, je suis assez incapable de donner des chiffres. Il y a eu de 1945 jusqu'à 1949, il y a des tribunaux qui fonctionnent à la fois le tribunal international de Nuremberg, des tribunaux américains qui mettent en place 12 procès subséquents à Nuremberg aussi, procès des ministères, de l'industrie, des Einsatzgruppen, des médecins, etc., etc. Et puis tu as dans chacune des zones des tribunaux régionaux qui poursuivent et condamnent un certain nombre de gens. Il faut voir la dénazification, hein, ce sont des chiffres, c'est une énorme opération, tu vois. Dans la zone d'occupation américaine, ce sont 900 000 personnes qui ont été jugées par les 545 centres de dénazification qui sont mises en place par les Américains. Tu vois, les chiffres sont vraiment extrêmement importants. Tu vois, dans les camps d'internement, il y a 182 000 individus qui sont enfermés entre mai 45 et janvier 47. Et ça n'est que pour les trois zones occidentales. Tu vois, ce que j'essaye de dire ici, c'est que effectivement, ces tribunaux américains internationaux américains et ces tribunaux d'occupation ont fait un énorme travail et ils ont ils ont condamné à mort et exécuté un certain nombre de personnes. Dans la zone soviétique, me semble-t-il, ce sont 42 000 personnes qui perdent la vie au cours du processus d'épuration. C'est pas rien, tu vois. Bien sûr, ce qui se passe après dans les tribunaux allemands n'a pas la même ampleur. Il n'y a pas cette espèce d'emprisonnement de masse et de filtrage véritablement que les Américains notamment mettent en place et qui permet d'évaluer la population, toute la population allemande. Il n'en reste pas moins que il y a quelque chose qui est extrêmement systématique et extrêmement tenace qui se met en place du côté allemand. Mais j'avoue n'avoir pas les chiffres pour replacer le nombre de condamnations entre 1945 et 2010.
J'avais une interrogation aussi personnelle sur une question concernant la classe sociale. Est-ce que finalement, après la guerre, des gens qui étaient issus de l'élite ou de la bourgeoisie, qui avaient déjà un réseau, ont eu tendance à peut-être mieux s'en sortir ou expliquer ou filouter que des gens de la classe ouvrière qui n'étaient pas forcément habitués à être, tu vois, au contact de gens de pouvoir ou de l'administration policière ou tout ça?
Je dirais que la façon dont les gens s'en sortir dépend peut-être moins de l'extraction sociale que de la date à laquelle tu te fais choper. Quand les dignitaires, enfin quand les personnes impliquées se font prendre très vite, hein, entre 1944 et 1946-47, les condamnations sont extrêmement rigoureuses. Elles sont souvent exécutées. Hein. Les peines de mort à ce moment-là sont extrêmement souvent exécutées. À partir de 1948, la peine de mort n'est plus exécutée et les peines sont commutées extrêmement rapidement et ce dans toutes les zones. Tout simplement parce que les Alliés font à ce moment-là le choix de récupérer les élites. Je dirais que d'un autre côté, mécaniquement, les élites sont quand même plus exposées que les classes populaires, parce que tout simplement, ce sont les gens des élites qui ont exercé les responsabilités. Et même si effectivement il y a des groupes sociaux un peu marginalisés, un peu marginaux, comme les gardiens de camp, etc., qui sont véritablement beaucoup poursuivis. Pour le reste, si tu veux, ce sont quand même les Alliés comme les Allemands essayent quand même de viser les décideurs et donc plutôt les élites.
Justement, c'est au gardien de camp que je pensais. En parlant de ces fameux camps, on se pose souvent la question de est-ce que les civils allemands étaient au courant ou est-ce qu'ils ont découvert comme ça du jour au lendemain? Qu'est-ce que tu en as à dire de ton côté, de ce que tu as pu découvrir en travaillant sur le sujet?
On y découvre une diversité extrême. On y découvre d'un côté que les Allemands sont habitués depuis 1934 à ce qu'il y ait dans leur horizon des espaces de détention dont ils savent que ces espaces de détention échappent à la normalité judiciaire. Et que donc, tu peux très bien te retrouver dans ces espaces un peu bizarres, ces anciennes usines autour de barbelés, et que entre 1933 et 1939, quand on y fait un tour, on ressort avec de bons yeux au beurre noir, mais on ressort. Et on ressort, c'est un calcul nazi, c'est on ressort parce que ben les nazis attendent bien que ceux qui ressortent racontent ce qui leur est arrivé aux autres et que les autres aient peur et la ferment. Tu vois, il y a une vraie porosité qui existe entre les espaces carcéraux et notamment les espaces concentrationnaires et la société d'avant-guerre, avec l'idée qui se développe que, au fond, les gens qui vont dans les camps de concentration sont d'un côté des rouspéteurs et des fortes têtes communistes et socialistes qui n'ont pas décidé de se couler dans le moule, de l'autre des criminels que le système judiciaire, d'ailleurs beaucoup trop laxiste, dit la Vox Populi, a laissé partir, et en troisième lieu des pervers, etc., etc. Et donc au fond, tous les gens qui passent par les systèmes concentrationnaires sont des gens qui au fond l'ont un peu mérité malgré tout. C'est ce que pensent un peu les Allemands. Après 1939, les camps de concentration se remplissent d'autres populations, notamment de populations étrangères. Et à partir de ce moment-là, les Allemands vont faire l'expérience, si tu veux, de la domination socio-raciale. Et donc, parce que les gens des camps de concentration sont envoyés à l'extérieur pour travailler et deviennent, si tu veux, une sorte de lumpenprolétariat, de prolétariat marginalisé, qui pour les Allemands, pour les Allemands, c'est normal de faire travailler ces gens qui sont censés devenir les esclaves de la société allemande. Et donc, tu vois, il y a comme ça une vraie porosité qui se met en place et qui fait que les Allemands sont à la fois pas vraiment conscients de l'ampleur de ce qui est en train de se passer dans les camps de concentration, notamment après 1941, et dans le même temps, qu'ils ont intériorisé le fait qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la justesse qui se mettait en place dans tout ça.
J'aimerais quand même faire un petit aparté, si tu le veux bien, pour te demander deux choses. Déjà, comment est-ce qu'on en arrive, à titre individuel, à travailler sur ces questions du nazisme et aussi plus particulièrement de la violence à l'Est? Et l'autre question que j'aimerais vraiment aborder avec toi aussi, c'est celle de l'impact que peut avoir ton travail sur toi-même, voire même sur tes proches. Parce que, en vérité, il y a quelques années, j'ai commencé à entamer certaines réflexions sur le métier d'historien et sur surtout ce qu'on en dit. Que le grand public dit des historiens, peut-être un petit peu naïvement, c'est oui, mais de toute façon, l'historien doit se mettre à distance de ses sources. L'émotion ou l'opinion ne doit pas avoir sa place dans le travail de l'historien. Mais quand on travaille sur des épisodes ultra violents comme ça, notamment sur le front de l'Est, quand on lit tout ce que tu as pu lire, quand on voit tout ce que tu as pu voir, comment est-ce qu'on arrive à gérer ça? Moi qui ai travaillé de façon vraiment éclair sur la guerre d'Algérie et qui ai vu des images qui n'ont pas été diffusées à la télé, moi j'ai été hyper atteint en fait et touché par ça alors que je l'ai vécu de manière très fulgurante, tu vois. Et comment est-ce que pendant des années, toi, tu peux réussir à gérer ça? Est-ce qu'on ne devient pas fou en fait?
Alors, je ne suis pas fou, je ne crois pas l'être en tout cas. On pourrait demander ça à ma compagne et à mes enfants. Je n'ai pas l'impression d'être fou. Ils diront peut-être que je suis un peu bizarre, mais, mais pas beaucoup plus que ça. Hein. Je peux aussi demander aux centaines d'étudiants qui sont à qui j'ai fait cours. Je pense que assez peu d'entre eux, il y en a pas mal qui diront que je suis bizarre, mais assez peu qui diront que je suis fou.
C'était rhétorique, je ne te traitais pas de fou.
Mais j'ai essayé de répondre dans l'ordre à tes questions. La première question, comment est-ce qu'on se met à travailler là-dessus? Écoute, j'ai raconté déjà assez souvent que j'ai eu l'idée du sujet sur lequel j'ai travaillé, c'est-à-dire les intellectuels dans les services de renseignement nazis, très jeunes. J'ai lu quelque chose sur la présence de ces intellectuels, je vais avoir 12 ou 13 ans, et cette question m'a scotché à ce moment-là, mais elle est restée en jachère dans ma tête jusqu'à l'âge de 22 ans, âge auquel j'ai fini ma licence dans la petite ville universitaire où je suis né, qui est Clermont-Ferrand, et où la femme qui est devenue la maman de mes trois premiers enfants m'a dit « Écoute, je veux partir à Paris et si tu veux, tu me suis ». Moi, j'avais très envie de la suivre et donc j'ai ressorti ce sujet-là pour légitimer le fait qu'il fallait que j'aille travailler ailleurs qu'à Clermont-Ferrand où on ne pouvait pas travailler sur le nazisme. Donc ça, c'est une première chose. Mais le sujet en lui-même, il n'est pas grand-chose parce qu'il faut avoir les moyens de le regarder. Et c'est là qu'on commence à arriver à la question de la violence. Je fais partie d'une génération de gens née au tout début des années 70, qui vit la chute du mur en fin d'adolescence, 18-19 ans, et qui voit apparaître devant ses yeux incrédules, si tu veux, la resurrection de la violence dans nos horizons d'attente. On est la génération des boomers et la génération la génération X que je représente. Nous avons eu la chance mais infinie de vivre dans des sociétés pacifiées. On peut dire ce qu'on veut de l'Union européenne. L'Union européenne nous a apporté pratiquement 50 années de paix. À part que cette paix, à partir de 1992-93, elle est mise à mal par l'explosion de violence qu'a constitué la guerre en Yougoslavie. Et la guerre en Yougoslavie, elle a pour moi une résonance, elle a pour tous les chercheurs en sciences humaines et sociales de ma génération, une résonance particulière, mais pour moi, une résonance plus importante encore parce que, j'avais des. J'étais très engagé à gauche à ce moment-là, enfin, très, très, très engagé à gauche à ce moment-là, et pour moi, la Yougoslavie, c'était un des avenirs possibles de nos systèmes sociaux parce que on y vivait en paix, qu'il y avait l'autogestion dans les entreprises, que s'il y était développé quelque chose qui était de l'ordre d'un socialisme à visage visage humain et que il y avait quelque chose qui était d'ordre de la concorde et de l'avenir qui s'y mettait en place. Et donc quand tout ça a explosé, j'ai rien vu venir, rien vu venir, parce qu'alors que j'avais des amis yougoslaves et notamment des amis serbes, et que comme un idiot, si tu veux, je me suis retrouvé complètement aveugle face à ce truc-là. Donc pour moi, ça a deux conséquences. Un, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, sur les questions de violence, j'avais été saisi comme génération par l'explosion et la facilité de la rediffusion de la violence dans un corps social. Deux, au plan personnel et éthique, si tu veux, j'avais déjà énormément lu sur le nazisme, etc., etc. Et donc dès le début de ma démarche d'historien, il a été hors de question de me dire que j'allais travailler sur le génocide des Juifs et sur le nazisme en essayant d'éviter le prochain génocide. Il était arrivé devant mes yeux, j'avais rien vu, et même au début, je me pensais pro-yougoslave, et en fait, je faisais le jeu des Serbes. Donc, si tu veux, s'être autant trompé à l'origine de ma démarche, ça m'a d'une part permis d'avoir une démarche avec le moins d'ambition éthique et politique possible, c'est-à-dire que moi, je fais de l'histoire. J'en tire personnellement évidemment quelque chose qui est de l'ordre d'un apprentissage civique, mais alors il faut surtout pas compter sur moi pour arriver et mettre en place des arguments d'autorité et dire laisse petit, je connais le nazisme et je vais t'expliquer ce qu'il faut faire dans les 10 prochaines années. Tu vois, ça c'est un truc qui m'insupporte de façon absolument totale. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, en assistant médusé à l'explosion de violence qui a été celle de la Yougoslavie et bien sûr, évidemment, un peu plus tard du Rwanda, eh bien, nous avons été incités à trouver des instruments pour apprivoiser la question de la violence de guerre et des attitudes individuelles et collectives face à la violence, qui étaient des outils qui n'étaient pas utilisés par les historiens du nazisme jusqu'ici. C'est comme ça qu'on a été lire de l'anthropologie, qu'on s'est réintéressé à l'histoire antique, qu'on s'est intéressé à l'histoire religieuse du XVIe et du XVIIe siècle, qu'on a été lire Denis Crouzet, et qu'on a compris que, en étudiant au plus près des gestuels de violence, on pouvait arriver dans la tête de ceux qui l'opèrent. Donc ça, c'est, si tu veux, ce qui a guidé ma démarche jusqu'à encore maintenant. Après, là où tu as parfaitement raison, c'est ce type de démarche a un coût psychique. C'est évident. Tous les historiens et toutes les historiennes que je connais et qui travaillent sur ces sujets-là, on est quelques-uns, mais on se connaît quand même un peu tous, paye un impôt d'âpreté, appelons ça comme ça pour être un peu joli, un impôt d'âpreté à cette blessure que l'on s'inflige en projetant notre empathie sur ces massacres-là. Car l'opération historienne et notamment cette histoire compréhensive qu'on essaie de mettre en place et qui consiste à essayer de rentrer dans les catégories des acteurs pour essayer d'en comprendre la logique, en faisant cela, eh bien, tu t'exposes à cette blessure narcissique qui a été opérée soit par le fait d'être confronté à ta propre mort imminente, soit qui t'est infligée par le fait d'être confronté au fait de tuer. Et donc, il y a quelque chose que les psychiatres, les psychologues appellent désormais le traumatisme vicariant et qui constitue un des corollaires de ce type de démarche. Il n'en reste pas moins, si tu veux, que la première chose qu'il faut voir, c'est que entre cette ombre traumatique qui constitue le corollaire de ce qu'on est en train de faire et l'expérience véritable, il y a un monde qui fait que, malgré tout, nous ne sommes pas nous sommes la plupart du temps pas atteints par des blessures psychiques fondamentales. Et deuxième chose, nous sommes tous consentants à faire ça. C'est-à-dire que pour rien au monde, je n'échangerai ma place avec une autre. Il faut aussi bien comprendre que lorsqu'on travaille sur ces sujets et à des niveaux existentiels comme cela, on évidemment n'est mis en position de regarder ce qu'il y a de plus laid dans ce que l'on pourrait appeler la condition humaine et non pas la nature. La condition s'est construite. Donc, de ce qu'il y a de plus laid dans la condition humaine, mais on y voit aussi ce qu'il y a de plus beau. Et ça, c'est peut-être le plus surprenant, mais il n'en reste pas moins que essayer de comprendre le choix fondamental que font ces jeunes parents, les 29 et 30 août 1941, à Kamenets-Podolsk, de ne pas tenter le coup, de traverser ce pourtant si fin cordon de policiers qui pourrait faire qu'ils tentent le coup de la survie et qu'ils ne le font pas pour pas abandonner leurs enfants. Eh bien, il y a de la beauté dans ce geste-là. Il y a de la beauté dans ce choix-là. Et je me considère comme chanceux d'avoir de l'opportunité de pouvoir essayer de, ne serait-ce que de le faire éclater au grand jour et d'essayer de le comprendre.
T'as pensé à faire du théâtre un jour parce que vraiment tu me provoques des choses là. Je propose de passer aux questions parce qu'on a beaucoup de questions comme je disais tout à l'heure. Ça fait déjà une heure qu'on est ensemble et en vrai je pourrais t'écouter longtemps. Donc première question de Avec la main gauche qui dit: quand j'étais en RDA entre 79 et 88, j'étais surprise de la façon dont la culpabilité était évacuée. Les nazis étaient tous de la RFA et en RDA il n'y avait que des anti-nazis. Est-ce que tu partages cette impression là toi aussi?
Ça c'était le discours total et absolu de la RDA de cette époque là, c'est-à-dire que la RDA mettait en place un discours qui était effectivement nous sommes la patrie de l'antifascisme, mais de l'autre côté la RDA est un pays qui n'a pas fait son aggiornamento et qui donc est une espèce de nid de nazis. Et puis quand tu vas travailler dans les archives de RDA, tu t'aperçois très discrètement la Stasi, la police politique nazie, faisait la chasse aux quelques nazis qu'elle arrivait à trouver et que jusqu'en 1985 elle condamne à mort et exécute des anciens nazis. Et donc, malgré tout, les Est-Allemands étaient parfaitement conscients du fait qu'en leur sein, ils restaient aussi, malgré tout, des nazis. Mais la plupart du temps, ils les exonéraient en disant qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la contrainte à l'adhésion, ou alors ils les pourchassaient et, sans aucune pitié, les condamnaient à de très, très lourdes peines, notamment jusqu'en 1986. À la peine de mort avec exécution.
Ouais, c'est tard, moi je suis dans 88, c'est tard. On a Paul The Polo qui nous demande si pendant la guerre, on a des sources, nous parlons de soldats allemands qui auraient refusé de participer à certains actes.
C'est une très très bonne question. On a, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a quelque chose comme 20 000 ou 30 000, peut-être entre 20 et 30 000 soldats qui ont été exécutés par les institutions judiciaires, militaires de la Wehrmacht pour refus d'obéissance ou pour désertion, etc. Il n'en reste pas moins que dans aucun des cas qui a été relevé par les historiens, il s'agissait du refus d'exaction contre des civils ou d'exaction génocidaire. Ce dont on s'aperçoit quand on travaille par contre sur ces exactions civiles et génocidaires, c'est que les refus peuvent exister. Tel soldat ou tel membre d'une Einsatzgruppe peut dire aujourd'hui « je ne veux pas tuer d'enfant ». Mais il n'est pas en train de nous dire qu'il ne veut pas tuer d'enfant en général. Il est en train de dire « aujourd'hui, je ne le fais pas ». Ou alors, quand il le dit en général « je ne veux pas tuer d'enfant », ce qui est sous-entendu, c'est que les femmes et les hommes, il est d'accord, les adultes, il est d'accord. Et donc, on s'aperçoit qu'on a des rapports qui sont transitionnels et qui font que même quand on en arrive à discerner un certain nombre de refus qui sont exprimés, ce sont des refus qui sont la plupart du temps contextualisés et locaux. Il n'y a pas, à ma connaissance, je n'ai jamais vu de refus socialement identifiés qui soient de l'ordre moral ou idéologique, où quelqu'un dit « ce que nous sommes en train de faire n'est pas bien ».
Que sait-on de ces soldats nazis qui ont vraiment aimé des Françaises et autres quand celles-ci se sont faites persécuter après la guerre, d'un point de vue de la culpabilité ?
Ce problème-là a trouvé son historien, un merveilleux historien qui s'appelle Fabrice Virgili, et qui a travaillé sur ces enfants des deux couples franco-allemands et qui beaucoup travaillé dans une institution qu'on appelle la VAST, hein, et qui est une institution dans laquelle on peut rechercher les personnes qui ont disparu et qui s'est spécialisée aussi dans la recherche de paternité. Alors, la plupart du temps, ces couples ne se sont pas reformés. Il s'agissait essentiellement de gens d'amour d'un soir ou de liaisons qui ont pas résisté à la guerre. Mais il est clair que assez souvent, malgré tout, à partir des années 80 et encore plus des années 90, les enfants nés de ces unions ont pu essayer de retrouver leur père et se mettre en place. Voilà, c'est à peu près ce que montre Fabrice. Alors, la démarche de Fabrice Virgili est une démarche qui est aussi une démarche d'étude des sociétés après-guerre et de cet ordre des genres qui se met en place à ce moment-là et donc de la réprobation quasi unanime que ces femmes ont connu. Il a commencé à travailler sur les tontes à la libération en montrant qu'elles étaient effectivement liées à la restauration de l'ordre patriarcal. Mais ensuite, il a travaillé sur ses enfants et a montré la somme de souffrance qui pouvait avoir été générée par ce genre de choses.
comment était gérée la culpabilité de la population par les quatre puissances alliées et leurs territoires respectifs? Est-ce qu'il y avait un soutien psychologique mis en place? Est-ce qu'il y avait du lynchage? Est-ce que ça s'est transmis à la génération suivante? On l'a vu un petit peu tout à l'heure, on en a parlé. Si oui, de quelle façon?
Nulle part, il y a de la psychologie. Hein. C'est vraiment quelque chose qui, c'est vraiment quelque chose. La question de la psychologie, du développement personnel, du trauma, de la résilience, etc., sont des interrogations. Ce sont des interrogations qui sont nées dans les années 90. Avant cela, on ne sait pas ce que c'est. Donc, les opérations que mettent en place les occupants pour cette question de la culpabilité, elles aussi entre un impératif moral et de justice qui dit des crimes monstres que se sont commis, il faut les sanctionner, et de l'autre, un impératif social et fonctionnel qui dit, on a une société, on ne va pas tuer tous ces gens, il faut qu'elle fonctionne, on a besoin des cadres pour les faire fonctionner. Et donc, entre les deux, il y a une espèce de louvoiement qui fait qu'on a à la fois des opérations, d'immenses opérations d'internement des hommes pour essayer de les juger et de mettre en place une évaluation de leur culpabilité, et puis de l'autre, ce qu'on appelle, ce qu'un historien qui s'appelle Jaeger appelle une amnistie froide, s'est mise en place. Et donc, entre les deux, si tu veux, il y a quelque chose qui est une sorte de via média qui a à la fois fonctionné de façon assez brillante, parce que l'Allemagne, 40 ans plus tard, est là, quatrième puissance économique mondiale, et réussi à mettre en place. Et d'un autre côté, c'est un canard boiteux, parce que on voit bien que pendant deux générations au moins, le malaise laissé par cette histoire a tourmenté ces générations. Donc voilà, c'est à peu près ça qu'on peut dire. Hein. Je pense que une des choses qu'il faudrait quand même souligner dans tout ça, c'est que le judiciaire a plusieurs fonctions. Il y a une fonction qui est une fonction vindicatoire. Il faut apporter le judiciaire aux victimes et à leurs ayants droit pour qu'ils se sentent remis de ce qu'ils ont vécu. En second lieu, il y a une fonction de réaffirmation de la norme. C'est tu as tué, c'est mal de tuer, tu vas payer. Mais en troisième lieu, il y a une dernière fonction qui est une fonction symbolique de rédemption des victimes et qui fait que une fois que tu as payé, tu dois pouvoir continuer à vivre une vie. Et ça, c'est très important pour que les sociétés puissent continuer à fonctionner après. Et les quatre sociétés dont on est en train de parler ont essayé, bon an, mal an, assez inconsciemment, sans jamais le dire, de trouver leur chemin entre ces trois fonctions.
On a Léonard Minier sur Facebook qui nous demande « A-t-on mesuré l'adhérence à l'idéologie nazie au sein de la population allemande dans l'après-guerre » À la début 1945, la population allemande dans son ensemble ne croyait plus en la victoire finale, mais avait l'air de continuer à adhérer à cette pensée. La défaite a-t-elle agi comme une prise de conscience de ce qui avait été fait ou seulement comme une mise en veilleuse ?
Moi, je dirais pas adhérence, mais adhésion. Une adhérence, c'est la pâte à pain qui colle à ta main.
Tout à fait.
Ça, c'est hyper intéressant parce que au fond, je pense que il a exactement notre interrogateur, là, Léonard, a exactement exprimé sa pensée, c'est-à-dire que comme si le nazisme collait aux gens. Et c'est tout sauf une maladresse au sens où moi, je pense que le 8 mai 45 n'a pas tué le nazisme. C'est-à-dire que le nazisme, c'est encore une fois ce système de croyances désangoissant qui donne du sens au monde. Et au fond, entre le 8 mai 1945 et un peu plus tard, les nazis croient toujours qu'on veut les exterminer, croient toujours que les soviétiques et les juifs vont revenir, croient toujours que, etc. Et ce qui va tuer le nazisme, c'est ce qui va infirmer cette croyance-là. Et ce qui va infirmer la croyance, c'est l'hiver 45-46. Si les nazis avaient eu raison, alors les soviétiques, les américains, les français et les anglais aurait laissé la population allemande mourir de faim. Il y a pas de récolte hein. En avril mai 1945. Les gens sont occupés à cramer les champs, mourir, se battre, etc., etc. Et donc il y a pas rien à manger en Allemagne. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les Français, les Britanniques et les Américains font venir des vaisseaux entiers de ravitaillement pour pouvoir faire nourrir les populations allemandes. Et plus encore. Les Soviétiques font la même chose. Alors même que dans leur territoire, un certain nombre de régions, notamment des régions de l'est de l'Ukraine, connaissent la famine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Soviétiques, en conscience de cause, condamnent à mourir un certain nombre de leur population pour nourrir les Allemands. C'est ça qui tue le nazisme. C'est le fait que, ben voilà, cette espèce d'angoisse obsidionale qui a été ressentie par la population allemande et qui transcende l'appartenance militante. Et c'est ce qui faisait que ces gens pensaient qu'on allait les, que voilà, on allait les exterminer en tant qu'État, mais aussi en tant que nation, voire en tant qu'entité démographique. Eh bien, ils se sont aperçus à ce moment-là que, ben voilà, tout ça n'était pas vrai. Et la croyance, à ce moment-là, elle se déconstruit et elle s'évapore. Ce qui s'évapore, c'est pas seulement la foi nazie, c'est aussi la mémoire de tout ça. Et c'est-à-dire que quand tu demandes à quelqu'un dans les années 50 ce que ça veut dire être nazi, eh ben il te répond oui, c'était on adhérait à des trucs, oui, on voulait telle chose, on voulait de l'ordre, etc., etc. Mais les protagonistes sont incapables de retrouver le cœur émotionnel de la chose.
Qu'est-ce qui peut expliquer l'évolution de partis? C'est Steven Derumeau qui nous demande ça. L'évolution des partis néo-nazis depuis les années 90, en Saxe notamment. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de voir un parti nazi monter prochainement?
Ma réponse à la question, elle est en train d'évoluer. Elle est en train d'évoluer parce que il y a 10 ans ou 15 ans, je t'aurais dit, mais les partis d'extrême droite ne sont pas des partis nazis, ce sont des partis d'extrême droite. Ce sont l'équivalent de ce que l'on appelait dans les années 20 des Völkisch, c'est-à-dire des ethno-nationalistes, hein, comme peuvent l'être Génération Identitaire, l'œuvre française, une frange du Front du Rassemblement National, l'AFD, Pegida, etc., etc. Il n'en reste pas moins qu'il y a deux choses qui ont changé depuis ce moment-là, même si je ne suis pas un expert des extrêmes droites européennes. D'une part, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'attractivité, qui a connu depuis une dizaine d'années une explosion dans toutes les extrêmes droites européennes, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'attractivité qui est maintenant attaché au militantisme nazi, un peu comme à l'extrême droite allemande dans les années 20. C'est-à-dire que quand tu vas dans une fac dans les années 20 en Allemagne, le type beau, brillant, bien habillé, qui a le swag, comme vous dites, vous les jeunes, t'as de fortes chances de le trouver à l'extrême droite. Ça, c'est quelque chose qui était impensable dans les années 90 et même au début des années 2000 en France. À l'heure actuelle, je pense que tu vas dans une université, dans une faculté des sciences juridiques ou de médecine, l'étudiant beau, brillant, attractif, etc., etc., ben, il y a une petite chance que tu le retrouves à Génération Identitaire ou à l'AFD en Allemagne. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé et qui fait qu'il y a de nouveau une attractivité de tout cela. Après, il me semble qu'une chose n'a pas changé depuis les années 2000, le cœur fondamental du nazisme est qu'il est un projet de refondation socio-biologique utopique d'une entité socio-raciale. Aucun parti d'extrême droite européen à l'heure actuelle ne propose un avenir suffisamment attrayant pour attirer des électeurs, ni même des militants. Et ça, je pense que c'est la chose qui différencie fondamentalement les mouvements d'extrême droite à l'heure actuelle du NSDAP des années 1931-1932.
On a Anaïs qui nous dit, tout ça est un sujet vraiment très intéressant, on dit « Étant juif, je ne connais que ce point de vue, comment nous on a grandi avec le poids de la mémoire, de la transmission de cette mémoire, du devoir de mémoire, des récits de personnes de notre famille qui sont ancrés en nous alors que nous on n'y était pas. Tout le monde a quelqu'un dans sa famille, dans la famille de ses amis qui a été touché de près ou de loin. » Et cet enseignement de la Seconde Guerre mondiale, elle nous dit « nous suit toute notre vie ». Et je vois aujourd'hui ma fille de 4 ans qui commence déjà à me poser des questions. Ce poids, il doit être bien plus pesant et difficile à porter pour tous ces enfants d'après-guerre qui n'étaient même pas nés à l'époque des faits et se retrouvent avec une culpabilité qui n'est pas la leur. J'aimerais vraiment savoir comment on leur a enseigné en Allemagne la Seconde Guerre mondiale et la Shoah à l'école.
Alors, il y a une chercheuse en sciences politiques qui travaille sur ces questions-là, qui s'appelle Alexandra Heuser, qui est une fille bourrée de talent. Et si tu me donnes l'adresse de cette personne, je lui enverrai les papiers. En Allemagne, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu... je ne sais pas si vous connaissez, si nos interlocuteurs connaissent le modèle freudien. Tu sais, pour Freud, il faut une génération pour commettre le crime, une génération pour l'oublier et une génération pour le symboliser. Et donc, l'oublier et se remémorer, j'ai oublié de dire, l'oublier et se le remémorer, et puis la troisième pour le symboliser. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Il y a une génération, celle des années 1930, hein, qui a été la génération qui a commis, on va dire 1890-1930, qui a commis le crime. Les gens qui sont nés à partir de 1935 jusqu'en 1960-65 sont la génération qui a d'abord oublié et qui ensuite s'est remémorée du crime. Et donc, dans cette génération, elle a été socialisée dans une Allemagne du business as usual, tu vois, où c'était le Wirtschaftswunder, le miracle économique. Et donc, on disait qu'il fallait s'occuper de l'avenir et pas du passé. Et donc, on avait des représentations très populaires du truc. On disait, bah voilà, les nazis étaient un petit groupe sans foi ni loi qui a arnaqué les Allemands, qui les a subjugués, qui a appliqué le programme que sous la houlette de ce diable qui est Hitler. Et puis, en fin de génération, tu vois, vers les années 50-60, commence à mettre en place le processus de remémoration. Et donc, c'est aussi eux qui se disent, bon, bah, écoute, c'est plus possible de vivre comme ça, il faut bien quand même qu'on commence à se le remettre en place et à se le rappeler. Et puis, tu as une troisième génération qui est celle, je dirais, de la symbolisation et dans laquelle, bah, voilà, les gens vivent avec, essayent d'intégrer la culpabilité pour mettre en place de nouveaux modes d'identification à leur patrie. C'est clair que être allemand, ça sera toujours désormais être à la fois l'héritier de Goethe et de Schiller, hein, de l'ode à la joie, du Verheit zu spät und start und find, c'est la Vater mit seinem Kind, et en même temps le fils de Dachau. Eh ben, il faut inventer un futur là-dessus, et ce futur, eh ben, il faut qu'il soit démocratique, rhénan, européen, et c'est ça symbolisé. Et c'est ça ce qui a été transmis par les systèmes éducatifs allemands jusqu'à maintenant, avec parfois des méthodes qui étaient des méthodes, on va dire, en Allemagne, on a quand même beaucoup employé la pédagogie de la baffe dans la gueule, en mettant les gens face, les enfants notamment, en présence de photos ou de textes qui franchement, que moi je montrerai pas à mes petits, quoi. Voilà.
Ah oui, bah, moi je me souviens, j'avais été il y a quelques années à Berlin, j'avais visité une expo permanente. Voilà, c'est celle-là. Et alors, j'ai visité le truc. Je suis resté une heure, je suis sorti, j'étais déprimé pendant trois semaines, quoi. Vraiment, ça a été, enfin, c'est horrible. Alors que c'est vraiment des panneaux avec des photos, ouais, et des textes, quoi.
Quand tu l'as visité, c'était dans les caves de la Prinzalbrechtstraße où il y avait déjà ce musée qui existait?
Non, il y avait le fameux musée moderne qui...
Parce que dans les années 90, si tu veux, c'était dans les ruines du QG de la Gestapo, et tu descendais dans les cellules pour lire les panneaux, tu vois. C'était vraiment quelque chose, hein. C'est quelque chose de la topographie d'Esterhaus, hein. C'est vraiment...
Ouais, ça m'a énormément marqué.
C'est sûr.
On a Toto le facteur. Alors, t'as déjà répondu un petit peu tout à l'heure à cette question-là, mais que sont devenus les prisonniers de guerre allemands tombés entre les mains des Russes, ainsi que les prisonniers russes entre les mains des nazis?
Alors, bah, voilà, là, on voit beaucoup la symétrie. Les prisonniers de guerre russes tombés entre les mains des prisonniers de guerre soviétiques, pas russes, soviétiques, tombé entre les mains des Allemands, et ben pendant tout le premier semestre de Barbarossa, ces gens sont impitoyablement mis à mort, fusillés, gazés pour certains à Auschwitz, mais la plupart du temps tués par la faim et par la soif, et ce sont 2 500 000 morts qui tombent comme cela. Ensuite, les Allemands essayent de les tuer un peu moins vite en les faisant travailler pendant toute la guerre, hein. Ça a quand même été, c'est l'une des grandes tragédies de la Seconde Guerre mondiale que le sort des prisonniers de guerre soviétiques, et ce d'autant que ceux qui reviennent sont considérés comme ayant été contaminés par le mode de vie occidental, et que la plupart du temps, ils vont faire quelques mois de filtrage dans les camps des institutions de sécurité de staliniennes avant de pouvoir retourner chez eux. Donc tu vois, c'est vraiment leur sort a été, tu vois, la double peine, on va dire. En ce qui concerne maintenant les prisonniers de guerre allemands en Union soviétique, il y en a quand même beaucoup qui sont pas revenus, c'est sûr. Mais ils sont parvenus parce que leur traitement est assez représentatif de ce qu'a été le chaos et le désastre économique, matériel et démographique de la guerre en Union soviétique. C'est-à-dire que l'Union soviétique a perdu pratiquement 28 à 29 millions de personnes pendant la guerre. Toute sa partie occidentale, c'est-à-dire la partie la plus productive, est un d'un chandruine absolu, et les Allemands sont autant, les prisonniers de guerre allemands sont autant victimes, peut-être même un peu moins, que les populations civiles, des conditions sanitaires désastreuses qui dominent dans cette période-là. Et donc, il y a, je crois, quelque chose comme 3 millions d'Allemands qui sont entre les mains des Soviétiques en 1945, et il y en a 2 500 000 qui rentrent. Hein. Donc il y a quelque chose comme entre 250 et 500 000 prisonniers de guerre allemands qui meurent dans les conditions de détention.
On a professeur Fromage qui nous demande si les associations d'anciens combattants du côté allemand ont fait un travail de repentance, justement, ou au contraire, ils ont eu un discours minimisant les crimes passés.
Bah, et alors, les associations d'anciens combattants, c'est une excellente question. Bravo, professeur Fromage. C'est une excellente question, mais on a parce qu'elles sont le symptôme de la normalisation d'Adenauer. Tu vois, de ce miracle économique allemand. Adenauer, c'est un peu le. J'ai un ami historien belge qui dit Adenauer, c'est le nazisme qui a réussi, parce que il y avait un Führer, on est passé d'Hitler à Adenauer, un type quand même beaucoup plus chaleureux et sympathique. Et on avait ein Volk, ein Reich, ein Führer. On a ein Volk, et ben voilà, maintenant les Allemands sont en fait tous réunis dans les deux Allemagnes, RFA, RDA. Ein Reich, bah bon, d'accord, la RFA, c'est quand même un tout petit empire, mais c'est un empire qui est quand même assez agressif économiquement et commercialement. Et ein Führer, comme je disais, ben voilà, on a remplacé le Führer moustachu par le dirigeant rhénan Adenauer. Et donc, sous Adenauer, tu as toute une campagne d'opinion qui dit, et qui est basée sur les associations d'anciens combattants, qui dit, mais quand même, nous les Waffen-SS, on était des soldats comme les autres. Et donc, on aimerait bien avoir une pension d'anciens combattants comme les autres. Donc, tu vois, les types qui ont cramé les villages en Ukraine, qui, etc., tu vois, qui ont pu faire l'IDIS, etc., étaient en train de dire, mais vous savez, nous, on a été des combattants comme les autres. Et donc, il y a eu quand même à ce moment-là, si tu veux, une réaction disant, bon, écoutez, vous allez quand même faire attention, parce que le discours quand même qui était resté à ce moment-là, c'était... la Wehrmacht avait été restée propre et honnête, et la Waffen-SS, c'était les grands méchants. Et donc, ce discours-là faisait que les SS étaient... ce discours-là avait été intériorisé par les anciens combattants, et les associations d'anciens combattants, et donc, elles le transmettaient, si tu veux. Et puis, à partir des années 2000, 90, 95, 2000, elles ont été, les associations d'anciens combattants ont été en but aux nouvelles enquêtes qui ont été lancées par la nouvelle génération d'historiens, dans lesquelles on a montré que la Waffen-SS s'était évidemment impliquée jusqu'au cou dans les crimes, mais que la Wehrmacht avait elle aussi mis en place d'énormes crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et donc, depuis, on les entend plus beaucoup, quoi.
Et ils ont continué à toucher leur pension?
Alors ça, c'est un truc que je connais moins bien, mais non, la Waffen-SS, ils ont petit à petit, à coup de scandale médiatique, les pensions ont été de moins en moins versées. Il n'en reste pas moins qu'il y a encore, je crois, il y a encore une dizaine d'années, il y avait des vétérans d'Oradour-sur-Glane qui touchaient des pensions en Allemagne.
Après, professeur Fromage, restons, j'ai faim là du coup. Sandwich œuf ton maillot qui nous demande. De ce que j'en comprends, après la Première Guerre mondiale, en France, il y avait un fort sentiment antimilitariste. Est-ce que c'était la même chose en Allemagne? Est-ce que ça existait? Voilà.
C'est une excellente question, mais il faut l'affiner un peu. C'est-à-dire que, de ce que je comprends, en France, il y avait un fort sentiment antimilitariste. Ce sentiment antimilitariste, il est apparu extrêmement tard. C'est-à-dire que sandwich œuf ton fromage avait été en France dans les années 21, 22, 23, 24, il serait tombé sur une haine anti-allemande et un militarisme qui serait extrêmement important. C'est à partir des années 30 que l'antimilitarisme et le pacifisme se mettent à dominer en France. Cette chronologie est absolument pas valable pour l'Allemagne, où l'antimilitarisme est resté un sentiment ultra minoritaire. Pendant toute la période, hein, pendant toute la période, la grande majorité des Allemands est restée persuadée, un, qu'elle était rentrée en guerre à raison pendant la Première Guerre mondiale, deux, que c'était une guerre qui avait été une guerre de survie de l'Allemagne, et donc elle était parfaitement légitime. Hein. Donc il n'y a pas de pacifisme dominant en Allemagne avant le mouvement pour la paix des années 60-70.
On a ensuite Captain Armorica qui nous dit ça peut paraître con, encore une fois non, il n'y a pas de question con. Je me demandais s'il y avait de réels mouvements de résistance en Allemagne ou est-ce que le régime coercitif empêchait réellement tout développement de résistance ou d'opposition.
Ah, c'est une magnifique question et elle a nourri des décennies de travail d'historien. Il faut qu'on s'entende sur ce que c'est que la résistance. Et là, il y a un historien qui s'appelle Yann Kershaw qui a introduit un concept qui est le concept de dissension et qui permet, si vous voulez, de déployer tout l'ensemble. Et un autre historien qui s'appelle Alf Lüske qui a employé celui de Kant à soi, Eigensinn. Et donc, avec ces deux concepts-là, on arrive à montrer qu'il y a une palette très très large de possibilités de résistance. Vous connaissez tous cette photo où on voit une marée humaine en train de faire le salut hitlérien et puis un homme, un seul, qui reste les bras croisés. Et qui évidemment finit dans un camp de concentration un peu plus tard. Mais on la connaît. Ça, c'est déjà c'est une résistance. Ça demande un courage immense. La résistance, ça peut être aussi de faire semblant de ou de jamais dire Heil Hitler en disant bonjour, alors que c'est obligé. La résistance, c'est évidemment ça peut être la résistance intérieure de Heinrich Böll, dans lequel tu pendant des années et des années, ben tu te tais et tu produis pas. La résistance, ça peut être aussi ce geste de courage fou qui est celui de Stauffenberg d'essayer de tuer Hitler, etc., etc. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que la résistance est restée du début jusqu'à la fin, jusqu'au suicide d'Hitler, est restée un mouvement qui a été ultra minoritaire, mais qui a connu une très grande diversité d'expressions.
Eisless, qui nous demande ce que sont devenus les Waffen-SS des divisions étrangères européennes, comme la division Charlemagne, par exemple.
Bon, la division Charlemagne, elle a été taillée en pièces au moment de la dernière bataille de Berlin, et puis les survivants ont fondé le Front National, hein, tranquillement. On peut tracer le même type de destin pour la plupart des divisions. Je veux dire, la Légion Wallonie a constitué le noyau de l'extrême droite belge francophone. Il y a que les Ukrainiens, évidemment. Il y a que les Ukrainiens et les Croates qui sont issus de pays qui ont été ensuite sous régime communiste où effectivement les gens n'ont eu d'autre choix quand ils le pouvaient que d'émigrer et ils sont devenus des colons en Australie, au Canada, etc., etc.
D'ailleurs, j'avais vu des photos de SS indiens où ils avaient carrément les turbans et tout. Tu peux nous dire un peu pourquoi il y avait des SS indiens ?
Ouais, il y a une petite légion de quelques centaines de personnes qui est mise en place par un dirigeant nationaliste indien. On a l'impression que les Indiens sont des sortes de peace and love. On est un peu ici enfumé par les Beatles et leur gourou. Il n'en reste pas moins que je rappelle qu'à l'heure actuelle en Inde, c'est un homme qui a à peu près les mêmes positions que Trump qui est au pouvoir et qui l'appelle régulièrement au massacre des musulmans et que le dirigeant nationaliste indien concurrent de Gandhi dans les années 40 a effectivement contribué à la formation de cette Waffen-SS indienne, quoi. Et donc elle a existé, mais bon, elle n'a véritablement été utilisée qu'à des fins propagandistiques.
On a Adrien qui nous pose la question, c'est quoi la différence entre le nazisme et le fascisme ?
Ah, belle question. Alors, cette question, elle a aussi pour réponse des bibliothèques entières, avec une interrogation qui commence dès les années 20 et 30, en fait. Tu vois, l'un des pires génocidaires auxquels je me suis interrogé, qui s'appelle Otto Ohlendorf, tu vois, l'un des futurs très grands génocidaires, va étudier le fascisme, militant nazi, va étudier le fascisme, et on revient en disant que non, le fascisme et le nazisme, c'est deux choses totalement différentes. Alors, Philippe Burin, un très grand historien des idées, a montré qu'il y avait de grandes similitudes, hein, avec un parti unique, un chef, la propagande, etc., etc. Il n'en reste pas moins qu'il différenciait deux choses. Une chose fondamentale dans la structure idéologique, qui faisait que fascisme était ce qu'il appelait un déterminisme vitaliste, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est l'énergie du peuple, et c'est ça qui constitue la force unifiante de l'idéologie, alors que chez les nazis, c'est un déterminisme racial. Le nazisme est un système de croyances qui lie l'histoire, le monde et soi au travers du prisme de la race. Et donc, ça, c'est la version des historiens des idées. Les historiens du social maintenant, notamment les historiens marxistes, pensent que le nazisme est une forme très spécifique de fascisme et qu'il est un fascisme paroxystique, si tu préfères.
On a Dadi Raxor qui nous demande, peut-on comparer la culpabilité des nazis allemands et les nazis collaborateurs français ?
Ouais, y a quand même une différence énorme. La plus grande partie des collaborateurs français n'ont pas de sang sur les mains, n'ont pas tué de façon directe. Alors que une grande partie des nazis de rang subalterne et médian sont des gens qui ont tué de leurs propres mains. Ça, c'est vraiment une des différences entre les deux. Et bien sûr, après, tu peux comparer des Schreibtischtäter, c'est-à-dire des criminels de bureau. Tu peux les comparer, tu vois, un Joseph Darnand est en effet comparable à, je sais pas moi, un heureux SS, un Polizeiführer, un chef suprême de la police et des SS régionales, mais voilà, bon, il y a encore, tu vois, n'importe quel heureux SS, un Polizeiführer du front de l'Est a 250 000 morts au compteur, c'est pas le cas de Darnand, tu vois. Donc, on peut comparer les profils idéologiques, on peut comparer sans doute les extractions sociales, mais on peut pas comparer les culpabilités malgré tout.
Mmh. On a justement un ancien élève, Alexis, qui pose une question en demandant dans quelle mesure la brigade d'Irlewanger est l'arbre qui cache la forêt. Je veux dire par là qu'on retient les actions de cette brigade, car elle est composée d'hommes particuliers, mais finalement elle n'a effectué qu'une infime partie des violences à l'Est. Déjà, est-ce que tu peux nous recontextualiser un petit peu ça avant de répondre à la question ?
Alors, la brigade d'Irlewanger...
On a un épisode qui va arriver sur YouTube, je ne sais pas quand.
Si vous voulez l'annoncer ou pas, tu vois. Mais donc la brigade d'Irlewanger, c'est un accélérateur de particules du nazisme. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose qui est même dans les critères nazis profondément anormal, et dans le même temps cette anormalité a été un instrument nazi. C'est-à-dire que les nazis à partir de 1942 sont confrontés à des mouvements partisans de plus en plus importants à l'Est. Et ces mouvements partisans se cachent dans des forêts et sont appréhendés par les nazis à l'aune d'un imaginaire de la chasse, un imaginaire synergétique extrêmement important. Et donc, ils ont l'idée, ils l'ont un peu avant, ils l'ont dès l'invasion de la Pologne, ils ont l'idée de mobiliser des populations qui sont censées avoir des dons de chasseurs importants pour les tourner contre ces opposants qu'il faut chasser. Et c'est comme cela que naît l'idée de créer une brigade qui serait composée uniquement de braconniers. Elle est confiée à cet homme qu'on appelle Oscar d'Irlewanger, qui, à partir de 1939, commence à mettre en place les... 39 ou 40, j'ai oublié, j'avoue, je ne me rappelle plus vraiment. J'ai écrit un bouquin là-dessus, pourtant, je sais, hein, de cendres sur ma tête. Mais il est chargé de mettre en place cette unité, puis cette unité est envoyée à l'Est. Elle est censée, au départ... chasser des partisans en Pologne dans le district de Lublin, mais on s'aperçoit que à ce moment-là, elle est plutôt gardienne de pasteurs d'hommes. C'est pas des chasseurs d'hommes, c'est des pasteurs d'hommes. Et ils gardent essentiellement des juifs polonais qui ont été parqués, marqués et mis au travail, et donc domestiqués, hein, au plan anthropologique. C'est à partir de 1942 qu'ils sont envoyés à l'Est et où ils sont censés véritablement chasser des hommes. Et à partir de ce moment-là, ils se conduisent effectivement avec une immense brutalité. Ce qui est intéressant dans la question d'Alexis, hein, que je salue au passage, c'est que évidemment, tout le monde dit « Ah, c'est horrible ce qu'ont fait ces gens-là. Ils ont brûlé des villages, violé des femmes, ils ont échangé contre de la vodka, chassé des hommes, etc. etc. » Et puis on s'aperçoit que lors de l'opération Cottbus, ils sont responsables de la mort de 15 000 personnes en théorie, mais que quand on regarde, ils ont très vraisemblablement incendié quinzaine ou une vingtaine de villages, habitants compris, mais que le bilan en Biélorussie, c'est 627 villages, habitants compris. Et donc, effectivement, la Dürrlewanger, c'est le séquoia qui masque la forêt. Hein, et dans l'économie du discours à la fois nazi et allemand d'après-guerre, les gens disaient « Ah, c'était horrible ce que vous allez dire, Dürrlewanger », etc., etc. Mais ça masque le fait que des divisions de la Wehrmacht, hein, cette supposée armée aux mains propres, avaient participé à ces crimes elles aussi. Je précise par ailleurs que le 681e régiment de la Wehrmacht, composé uniquement de Français qui finiront dans la Waffen-SS, s'est aussi illustré pendant ces épisodes-là, et qu'il a combattu côte à côte avec la brigade de Dürrlewanger. Hein, et que donc, il y a une chose que j'aimerais bien que nous retirions tous de ce live et de tout cela, c'est que nous ne comprendrons rien au génocide des Juifs et à cette immense guerre qui s'est menée en Europe si nous la réduisons à un face-à-face entre bourreaux allemands et victimes juives. La guerre qui s'est menée est une guerre qui a été implémentée par les Allemands, mais qui s'est appuyé sur des consentements locaux extrêmement importants et qui donc s'est agencé en une guerre, une gigantomachie entre stalinisme et nazisme, mais qui, sous couvert de cette gigantomachie, a caché des centaines de guerres civiles toutes plus sanglantes les unes que les autres. Par-delà de tout cela, il y a un consentement européen fondamental à l'extermination des Juifs. La Shoah est impossible à penser hors des 100 fonctionnaires français, 100 gendarmes belges, 100 conducteurs de train néerlandais, 100 tueurs d'enfants baltes, etc., etc.
J'aimerais conclure sur cette partie de questions et te demander si toi, tu avais quelque chose que tu voulais rajouter sur ce sujet en particulier, ou un message que tu aimerais passer à tous les gens qui nous regardent concernant cette période.
J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « La promesse de l'Est », qui est un bouquin dans lequel on essaye de travailler sur, j'ai essayé de travailler sur l'utopie nazie et cette espèce de sentiment d'ivresse qui prenait les nazis, qui avait pris les nazis en 1939 au moment où ils s'étaient dit « purée, on va y arriver ». Et dans ce livre, il se termine sur l'histoire d'une région dans laquelle les nazis ont essayé d'implémenter leur utopie et dans laquelle, à la fin, comme tu vois, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, ils ont soufflé sur les braises de la guerre civile. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'entre juin 1944 à peu près et 1947, l'Europe a été précipitée par les nazis dans un espèce de cauchemar et d'enfer, d'épuration ethnique, d'errance, de mouvements de population, de guerre civile, de viol, etc., etc., qui a commencé sous les nazis mais qui a continué après. Et ce que j'aimerais dire, c'est que une grande partie de l'Europe s'est retrouvée à ce moment-là au plus noir de la nuit et dans des camps de transit dans lesquels on n'avait pas trouvé d'autre solution que de parquer les gens avant de les renvoyer aux endroits où on les destinait. Et c'est à ce moment-là qu'a disparu cette Mitteleuropa, qui a disparu définitivement, cette Mitteleuropa extrêmement multiculturelle qui était la marque en fait de l'Europe des années 20 et 30, hein, de ces pays où il y avait 30% de Polonais, 20% d'Ukrainiens, non j'exagère, 65% de Polonais, 25% d'Ukrainiens, 10% de Juifs, et où tout ce monde vivait ensemble, de ces villes dans lesquelles on voyait à la fois les minarets des mosquées, la skyline de l'église, qu'elle soit catholique ou orthodoxe, etc., etc. À ce moment-là est morte cette Europe qui était l'Europe du vivre ensemble et du multiculturalisme. Et de facto, ce qui est né après est une Europe des nations. Mais cette Europe, ce que j'essaye de dire ici, c'est que malgré tout, ce que l'on peut dire, c'est qu'au plus noir de cette nuit-là, au plus noir des camps de transit, au plus noir de cette errance, les sociétés européennes ont été capables d'inventer deux modèles politiques, économiques et sociaux qui ont constitué le creuset de la refondation de l'Europe d'après. Un modèle basé sur le capitalisme, mais aussi l'État-providence, un modèle de la prospérité heureuse, qui était celui du modèle de la liberté d'entreprendre et qui s'impose à l'Europe de l'Ouest à l'ombre des Américains, et de l'autre, un modèle de l'égalité qui est celui des sociétés socialistes qui s'impose à l'Est. Et ce que j'essaye de dire ici, c'est que pendant 30 ans, entre 1945 et à peu près 1975, ces modèles ont permis la reconstruction de l'Europe. Ce que j'essaye de dire ici, c'est qu'il y a une leçon à retirer de tout ça, c'est que au plus noir de la nuit, au plus profond de la détresse sociale, politique et économique de l'Europe, il y a des gens qui ont continué à penser l'avenir, la société et le vivre ensemble. Et que cette leçon-là, eh ben, c'est peut-être la seule chose qu'on a à apprendre à tous les autres, à tous ceux qui, en ce moment, sont en train de vivre le même enfer que celui que nous avons vécu à ce moment-là. Et notamment à ces réfugiés syriens à qui nous sommes en train de refuser depuis des années l'entrée dans notre petit paradis. C'est ça que j'aimerais qu'on retienne de tout ça.
Merci Christian pour ton intervention sur ces deux heures. Pour terminer rapidement, est-ce que tu aurais une petite sélection éventuellement bibliographique, quelques conseils de lecture pour tous ceux qui nous regardent et qui veulent se renseigner sur cette période?
Ah, c'est difficile. Les biographies d'Hitler sont vraiment pas mal, tu vois, de celle de Kershaw, celle de Longerich, elles sont vraiment pas mal. Les synthèses, les deux synthèses que Kershaw a mis en place, tu vois, il y en a une qui s'appelle To Hell and Back, mais je me rappelle plus comment elle s'appelle en français. Ça, c'est vraiment pas mal. Et puis voilà, il y a un très beau livre qui s'appelle La quête de la race, hein, de Édouard Comte et Cornelia Esner, qui est le livre le plus intelligent qui a été fait sur le nazisme depuis 25 ans, que je conseillerais. Si tu veux, Ben, je pourrais écrire ça et puis on le diffusera d'un autre côté.
Oui, bien sûr, on le retrouvera dans la rediffusion de la VOD qui sera sur un nota bonus. Bon, écoute, en tout cas, fais-nous peut-être un petit peu d'autopromo. Je veux dire, tu nous as fait rêver là pendant deux heures avec ton phrasé, donc tu as bien mérité de pouvoir te vendre aussi un petit peu là.
Oh, mais je sais pas, tu sais, c'est marrant que tu me dises ça, tu vois, je pense que il y a quand même beaucoup plus intéressant que lire que mes propres livres, et surtout pas le dernier. C'est-à-dire que le dernier s'appelle Le Soleil Noir du Paroxysme. C'est un livre que j'ai mis 10 ans à l'écrire, mais il est tellement difficile que je préfère ne pas le conseiller. Si les gens ils veulent lire quelque chose où à la fois j'apparais et où en même temps ils peuvent avoir l'impression d'avoir lu mes trois livres, il y a un livre qui s'appelle Les Urgences d'un historien. Je pense que c'est le plus facile à lire et c'est peut-être le plus agréable. Voilà, donc c'est celui-là que je conseille.
Il y a aussi une autre émission qui existe avec toi, qui a sorti il n'y a pas très très longtemps, puisque tu as été invité par le camarade Rivenzi sur Twitch. Vous avez parlé de quoi du coup avec Rivenzi?
De quoi on a parlé? Ben, on a parlé un peu on a parlé de génocide, on a parlé de d'archives, c'est de documentation, on a parlé de, on a peut-être un petit peu plus parlé de Première Guerre mondiale et d'entre-deux-guerres. Voilà, c'est ça qu'on a fait essentiellement, je crois.
Merci Christian d'avoir été avec nous,
merci
de répondre
Ben.
Aux questions. Et puis, écoutez, on se retrouve très bientôt. Des bisous tout le monde. Salut.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire, je le lirai avec plaisir.